Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour, ou bien de découvrir d'autres écrits de l'auteur choisi, et ce, tranquillement installé chez vous, en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Bonjour, chers auditeurs. Nous poursuivons tout l'été notre redécouverte de Dino Buzzati et de ses nouvelles tirées du livre Le Cas. Aujourd'hui, Hervé et Catherine vous proposent La Tour Eiffel et Quiz aux travaux forcés, une nouvelle qui montre toute la noirceur de l'âme humaine.
La Tour Eiffel. C'était le bon temps quand je travaillais à la construction de la Tour Eiffel et je ne savais pas que j'étais heureux. La construction de la Tour Eiffel fut une chose grandiose et très belle. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous en rendre compte. La Tour Eiffel, telle qu'elle est désormais, n'a plus grand-chose de commun avec ce qu'elle était alors. À commencer par les dimensions. Elle s'est comme rétrécie. Moi, quand je passe dessous, je lève les yeux et je regarde. Mais j'ai de la peine à reconnaître le monde où j'ai vécu les plus beaux jours de ma vie. Les touristes entrent dans l'ascenseur, montent à la première plateforme, montent à la deuxième plateforme, s'extasient, rient, prennent toutes les photographies avec des pellicules en couleur. Les pauvres, ils ne savent pas. Ils ne pourront jamais savoir. On lit dans les guides que la Tour Eiffel mesure 300 mètres de haut, plus 20 mètres en comptant l'antenne radio. C'est ce que disent aussi les journaux de l'époque, avant qu'on ne commence les travaux. À 300 mètres, ça semblait déjà une folie pour le public. 300 mètres, tu parles ? Moi, je travaillais alors aux ateliers Rungis, près de Neuilly. J'étais un bon ouvrier mécanicien. Un soir, quand je rentrais chez moi, un monsieur en haut de forme, qui pouvait avoir dans les 40 ans, m'arrête dans la rue. « Est-ce que c'est bien à monsieur André le Jeune que je parle ?»« Oui, c'est moi, mais vous, qui êtes-vous »« Je suis l'ingénieur Gustave Eiffel, et je voudrais vous faire une proposition. Seulement avant, il faut que je vous montre quelque chose. Ma voiture est là. » Je monte dans la voiture de l'ingénieur, il me conduit à un grand hangar qui s'élevait dans un terrain vague de la périphérie. Là, il y avait une trentaine de jeunes gens qui travaillaient en silence devant de grandes tables à dessin, sans lever les yeux de leur travail et daigner nous accorder un regard. L'ingénieur me conduit dans le fond de la salle où, appuyé contre le mur, se dresse un tableau qui faisait bien 2 mètres de haut et sur lequel une tour était dessinée. Je construirai pour Paris, pour la France, pour le monde, cette tour que vous voyez. En fer, ce sera la tour la plus haute du monde. Haute de combien ? Demandai-je. Le projet officiel prévoit une hauteur de 300 mètres. Mais ça, c'est le chiffre dont je suis convenu avec le gouvernement pour ne pas les épouvanter. Ce sera finalement beaucoup plus haut. 400 ? Mon garçon, faites-moi confiance. Maintenant, je ne peux rien vous dire. Ne nous emballons pas. Mais il s'agit d'une merveilleuse entreprise et c'est un honneur que d'y participer. Je suis venu personnellement vous chercher parce qu'on m'a dit que vous étiez un excellent mécanicien. Combien gagnez-vous chez Rintiron ? Je lui dis quel était mon salaire. « Si tu veux bien, chez moi, dit l'ingénieur, en me tutoyant brusquement, tu gagneras 3 fois plus. » Alors j'acceptai. Mais l'ingénieur ajouta à voix basse. « J'oubliais un détail, mon cher André. Je tiens beaucoup à ce que tu sois des nôtres, mais auparavant, tu dois me promettre quelque chose. » « J'espère que ce n'est pas quelque chose de déshonorant, hasardai-je un peu impressionné par son air mystérieux. « Le secret, dit-il. « Quel secret ? Peux-tu me donner la parole d'honneur de ne d'en parler à personne, pas même avec les tiens, de notre travail ?» De ne raconter à âme qui vive ce que tu feras et comment tu le feras ? De ne révéler ni chiffres, ni mesures, ni données, Pense-y bien, pense-y avant de toper là, parce qu'un jour ce secret te pèsera peut-être. » Il y avait un formulaire imprimé avec le contrat de travail où était écrit l'engagement de respecter le secret. Je signais. Le chantier comptait des centaines d'ouvriers, peut-être même des milliers. Non seulement je ne les connus jamais tous, mais je ne vis même pas tous car on travaillait par équipe, sans solution de continuité, et il n'y avait 3 jours par 24 heures. Une fois terminées les fondations de ciment, nous commençâmes, nous autres mécaniciens, à monter les poutres d'acier. Entre nous, dès le début, nous nous parlions peu, peut-être à cause du serment prêté, mais à quelques bribes de phrases saisies par-ci par-là, je compris que mes camarades n'avaient accepté l'engagement qu'en raison du salaire exceptionnel. Personne, pour ainsi dire, ne croyait que la tour serait jamais terminée. Ils pensaient que c'était une folie, au-dessus des forces humaines. Les 4 gigantesques pieds, une fois solidement rivés en terre, la charpente de fer s'éleva pourtant à vue d'œil. Au-delà de l'enclos, autour du vaste chantier, la foule stationnait jour et nuit pour nous contempler depuis que nous jouions là-haut minuscules insectes suspendus à notre toile d'araignée. Les arches du piédestal furent fortement soudées. Les 4 colonnes vertébrales se dressèrent presque à pic et puis se fendirent pour n'en former qu'une seule qui s'amincissait au fur et à mesure qu'elle s'élevait. Le 8e mois, on arriva à la côte 100 et un banquet fut offert à tout le personnel dans une auberge des bords de la Seine. Je n'entendais plus les paroles de découragement. Un étrange enthousiasme, au contraire, s'était emparé des ouvriers, des chefs d'équipe, des techniciens, des ingénieurs, comme si on avait été à la veille d'un événement extraordinaire. Un matin, c'était les premiers jours d'octobre, nous nous trouvâmes plongés dans le brouillard. On pensa qu'une couche de nuages bas stagnait sur Paris, mais ce n'était pas ça. Tout autour, l'air était serein. Et vise un peu ce tube là-bas, me dit Claude, me chalumet, le plus petit et le plus débrouillard de mon équipe, qui était devenu mon ami. D'un gros tube de caoutchouc fixé à la charpente de fer sortait de la fumée blanchâtre. Il y en avait 4, un à chaque coin de la tour. Il en sortait une fumée dense qui peu à peu formait un nuage qui ne montait ni descendait, et sous ce grand parasol d'ouate, nous continuions à travailler. Mais pourquoi ? À cause du secret ? Un autre banquet nous fut offert pour la construction quand on arriva à la côte 200, et même les journaux en parlèrent. Mais autour du chantier, la foule ne stationnait plus. Ce ridicule chapeau de brouillard nous cachait complètement à leur regard, et les journaux louaient l'artifice. Cette condensation de vapeur, expliquait-il, empêchait les ouvriers travaillant sur les structures aériennes de remarquer l'abîme qui était en dessous d'eux. Et cela leur évitait d'avoir le vertige. Grosse sottise. Tout d'abord parce que nous étions désormais parfaitement entraînés au vide, et même en cas de vertige, il ne nous serait pas arrivé malheur car chacun de nous portait une solide ceinture de cuir qui s'était attachée au fur et à mesure par une corde aux charpentes environnantes. 250, 280, 300, 2 ans avaient passé. Étions-nous à la fin de notre aventure ? Un soir, on nous réunit sous la grande voûte en croix de la base et l'ingénieur Eiffel nous parla. Notre engagement, dit-il, touchait à sa fin. Nous avions donné des preuves de ténacité, de bravoure, de courage et l'entreprise nous remettait une prime spéciale. Celui qui le désirait pouvait partir. Mais lui, l'ingénieur Eiffel, espérait qu'il se trouverait des volontaires disposés à continuer. Continuer quoi ? L'ingénieur ne pouvait pas nous l'expliquer, qu'on lui fasse seulement confiance, cela en valait la peine. Comme beaucoup d'autres, je restais, et ce fut une sorte de folle conjuration qu'aucun étranger ne soupçonna, parce que chacun de nous resta plus que jamais fidèle au secret. Et c'est ainsi qu'à la côte 300, au lieu d'ébaucher la charpente de la coupole finale, on dressa de nouveau des poutres d'acier les unes au-dessus des autres en direction du zénith. Barre sur fer, fer sur fer, poutrelle sur poutrelle, et des boulons, et des coups de marteau. Le nuage tout entier en résonnait comme une graisse harmonique. Nous autres, nous étions au septième ciel. Jusqu'au moment où, à force de monter, nous émergeâmes de la masse du nuage qui resta en dessous de nous. Et les gens de Paris continuaient à ne pas nous voir à cause de ce bouclier de vapeur. Mais en réalité, nous planions dans l'air pur et limpide des sommets, et certains matins venteux, nous apercevions au loin les Alpes couvertes de neige. Nous étions désormais si haut que la montée et la descente des ouvriers finissaient par prendre plus de la moitié de l'horaire de travail. Les ascenseurs n'existaient pas encore. De jour en jour, le temps de travail effectif s'amoindrissait. Le moment allait venir où, à peine arrivé au sommet, il nous faudrait entreprendre la descente, et la tour cesserait de croître, même d'un seul mètre. Il fut alors décidé qu'on installerait là-haut, entre les travées de fer, des petites baraques pour nous, comme des nids qu'on ne verrait pas de la ville parce qu'elle serait cachée par le nuage de brouillard artificiel. Nous y dormions, nous y mangions, et le soir nous jouions aux cartes quand nous n'entonnions pas les grands chœurs des illusions et des victoires. Nous descendions à la ville par roulement et seulement les jours de fête. C'est alors que nous commençâmes à soupçonner la merveilleuse vérité et à comprendre lentement la raison du secret. Nous ne nous sentions plus des ouvriers mécaniciens, mais bel et bien des pionniers, des explorateurs. Nous étions des héros, des saints. Peu à peu, nous prenions conscience que la construction de la tour Eiffel ne serait jamais terminée. Maintenant, nous nous expliquions pourquoi l'ingénieur avait exigé ce piédestal démesuré, ces quatre pattes de fer cyclopéennes qui semblaient absolument disproportionnées. La construction ne cesserait jamais et jusqu'à la fin des temps, la tour Eiffel continuerait à grimper en direction du ciel, dépassant les nuages, les tempêtes, les sommets. Tandis que Dieu nous prêterait force, nous continuerions à déboulonner les poutres d'acier l'une sur l'autre, à les boulonner toujours plus haut, et après tout, nos fils continueraient. Et personne dans cette ville toute plate de Paris n'en saurait rien, et le pauvre monde ne se douterait de rien. Bien sûr, en bas, tôt ou tard, ils perdraient patience. Il y aurait des protestations et des interpellations, ou partiellement, comment se faisait-il donc qu'ils n'en finissaient pas de construire cette fichue tour ? Désormais, les 300 mètres prévus étaient atteints. Alors qu'attendait-on pour construire la coupole ? Mais nous trouverions des prétextes. Nous aurions réussi sans aucun doute à placer un homme à nous au Parlement ou dans les ministères. Nous parviendrions à mettre l'affaire en sommeil. Les gens se résigneraient et nous autres toujours plus haut dans le ciel. Exil sublime. En bas, au-dessous du nuage blanc, un bruit de fusillade retentit. Nous descendîmes un bon bout de chemin, nous traversâmes le nuage, nous nous penchâmes à la limite inférieure de la brume, regardant à la longue vue vers le chantier. Les forces de police, les gendarmes, les gardes républicains s'avançant. Il y avait là des escadrons, des bataillons, des armées, que diable les emporte et les dévore. Ils nous envoyèrent un message parlementaire. « Rendez-vous et descendez immédiatement, oh les fils de chiens ! Ultimatum à 6 heures, après quoi ils ouvriraient le feu avec des fusils, des mitrailleuses, des canons légers. Ce sera assez bon pour vous, espèce de bâtard !» Un Judas sordide nous avait donc trahis. Le fils de l'ingénieur Eiffel, parce que l'aïeul était déjà mort et enterré depuis longtemps, était pâle comme un linge. Comment pouvions-nous combattre ? Pensant à nos chères familles, nous nous rendîmes. Ils défirent le poème que nous avions élevé au ciel. Ils amputèrent la flèche de 300 mètres de hauteur. Ils y plantèrent sous notre nez cette espèce de chapeau informe que vous voyez encore aujourd'hui, absolument minable. Le nuage qui nous cachait n'existe plus. Ils firent même un procès aux assises de la Seine à cause de ce nuage. La tour portée a été toute vernie en gris et il en pend de longs drapeaux qui flottent au soleil. Aujourd'hui, c'est le jour de l'inauguration. Le président arrive en redingote et chapeau haute forme dans la calèche impériale tirée par 4 chevaux. Comme des baïonnettes, les sonneries de fanfare jaillissent à la lumière. Les tribunes d'honneur sont fleuries de dames en grand tralala. Le président passe en revue le détachement des cuirassés. Les vendeurs d'insignes et de cocardes circulent dans la foule. Soleil, sourire, bien-être, solennité. De l'autre côté de l'enceinte, perdus dans la foule des pauvres airs, nous autres, les vieux ouvriers fatigués de la tour, nous nous regardons l'un et l'autre et des larmes coulent dans nos barbes grises. Ah, jeunesse!
For the night in the little harbor church of St. Cecilia. Two guitars, bata, bass drum, tambourine, Rose of Jericho and Bougainvillea. This is a lonely life, sorrows everywhere you turn. And that's where it's so funny. That is worth some money. That's worth some money. Think about it. That is worth some money. A trip to the market. A trip into the pearl gray morning sunlight that settles over Washington. A trip to the market. A trip around the world where the evening meal is negotiable if there is one. This is a something when you think about it, that is worth some money. That's worth something when you think about it, that is worth some money. To prove that I love you, because I believe in you, summer sky stars are falling all along the Indian coast. And if I have money, summer sky stars are falling all along the Indian coast. Say, wa-wa, do-wa, do-wa. Summer skies, the stars are falling all along the Indian coast. Wa-wa, do-wa, do-wa. Summer skies, the stars are falling. Summer skies, the stars.
travaux forcés. Dans ce grand pénitencier qui se trouve à la périphérie de la ville, réservé aux condamnés aux travaux forcés, il y a une règle, en apparence humaine, mais en réalité plus que cruelle. À chacun de nous autres, les condamnés à perpétuité, est accordé l'autorisation de se présenter une seule fois en public et de parler à l'assistance pendant une demi-heure. Le détenu tiré de sa cellule est conduit sur un balcon du bâtiment extérieur où se trouvent la direction et les bureaux. Devant lui s'étend la vaste place de la Trinité et c'est là que se réunit la foule pour écouter. Si à la fin du discours la foule applaudit, le condamné est libéré. Cela peut paraître une indulgence exceptionnelle, mais ne l'est pas. D'abord, la faculté de s'adresser au public n'est accordée qu'une seule fois, je veux dire une seule fois dans la vie. En second lieu, si la foule répond non, comme c'est presque toujours le cas, la condamnation se trouve en un certain sens confirmée par le peuple lui-même et pèse encore davantage sur l'âme du détenu, pour qui les jours d'expiation deviennent encore plus sombres et amers après. Et puis il y a une autre circonstance qui transforme cet espoir en tourment. Le prisonnier, en fait, ne sait pas quand cette permission de parler lui sera accordée. La décision est entre les mains du directeur du pénitencier. Il peut arriver que l'homme soit conduit sur le balcon à peine une demi-heure après être arrivé à la prison. Mais il n'est pas exclu qu'on le fasse attendre de longues années. Quelqu'un qui avait été condamné à la prison à vie très jeune fut conduit au fatidique balcon alors qu'il était un vieillard décrépit et presque incapable de parler. On ne peut donc se préparer avec le calme nécessaire à une épreuve si difficile. Certains pensent, peut-être vont-ils m'appeler demain, peut-être ce soir, peut-être dans une heure. C'est le début de l'inquiétude et avec les projets se bousculent, les idées les plus désespérées s'emberlificotent dans un enchevêtrement neurasthénique. Et il ne sert à rien d'en parler avec les compagnons d'infortune pendant l'heure trop brève de la promenade quotidienne. Généralement, on n'échange aucune confidence réciproque sur ce qui devrait être le sujet principal des rencontres de notre malheureuse communauté. Généralement, chacun nourrit l'illusion d'avoir découvert le grand secret, l'argument irrésistible qui déclouera le cœur avare de la foule. Et il craint de le révéler aux autres pour ne pas être devancé. Logique, dans le fond, que les gens qui se sont laissés émouvoir par un raisonnement restent sceptiques et méfiants s'ils l'entendent répéter une seconde fois. Les expériences de ceux qui ont fait leur discours sans succès pourraient être un élément utile pour savoir comment se régler. On pourrait au moins écarter les systèmes qu'ils avaient adoptés, mais les collés ne parlent pas. C'est en vain que nous les supplions de nous raconter ce qu'ils ont dit, comment a réagi la foule. Ils sourient ironiquement et ne soufflent mot. On dirait qu'il pense « Je resterai toute ma vie en tôle, restez-y donc vous aussi, je veux pas vous aider d'aucune façon. » De vrais salauds. Toutefois, il est fatal que malgré tous ces mystères, nous apprenions quelques petites choses. Mais dans ces vagues ragots, on ne trouve aucun élément utile. Il en ressort par exemple que dans ces discours à la foule, les condamnés reviennent toujours sur deux arguments, leur propre innocence et le désespoir de leur famille. Ce qui est évident. Mais de quelle façon ont-ils développé ce sujet? À quel langage ont-ils recouru? Ont-ils invectivé? Ont-ils supplié? Se sont-ils mis à pleurer? Personne ici ne le sait. Mais la perspective la plus décourageante est la foule même de nos concitoyens. Nous sommes des gibiers de potence. Je n'en discute pas, mais ceux qui sont dehors, les hommes et les femmes libres, ne plaisantent pas non plus. À l'annonce qu'un condamné va parler du haut du balcon, ils accourent sur la place, non pas dans l'esprit de quelqu'un qui va devoir exprimer un jugement grave, dont dépend l'existence d'un homme, mais uniquement pour s'amuser, comme s'ils allaient à une fête. Et ne croyez pas que ce public soit composé exclusivement de la lie des bas-fonds. Il y a aussi de nombreuses personnes d'une moralité exemplaire, des fonctionnaires, des gens qui ont une profession libérale, des ouvriers accompagnés de toute leur famille. Leur attitude est exempte de commisération et de pitié, même de simple compréhension. Eux aussi sont là pour se divertir. Et nous, déjà avec nos défroques rayées et la tête à moitié rasée, nous sommes ce qu'on peut imaginer de plus grotesque et de plus abject. Le malheureux qui apparaît au balcon ne trouve pas devant lui, comme on pourrait le penser, un silence respectueux et intimidé, mais des sifflets, des lazzi obscènes, des éclats de rire, Et alors, qu'est-ce qu'un homme déjà ému et tremblant peut faire devant un parterre semblable ? C'est une entreprise désespérée. On raconte bien dans des termes de légende que dans le passé, il y a eu des condamnés qui ont réussi à surmonter l'épreuve. Mais ce ne sont que des bruits qui courent. Ce qu'il y a de certain, c'est que depuis 9 ans, c'est-à-dire depuis que je suis emprisonné, personne ne s'en est tiré avec succès ici. Une fois par mois environ, depuis cette époque, l'un de nous a été conduit au balcon pour parler. Mais après, tous ont réintégré leurs cellules. La foule les avait sauvagement sifflés. Les gardiens viennent de m'annoncer que c'est mon tour. Il est 2 heures de l'après-midi. Dans 2 heures, je devrais me présenter devant la foule. Mais je n'ai pas peur. Je sais déjà mot pour mot ce qu'il convient que je dise. Je crois bien avoir trouvé la réponse juste au terrible quiz. J'ai médité longtemps, pendant 9 ans. Alors vous pensez ? Je me fais aucune illusion sur le public. Il ne sera pas mieux disposé que celui qui a écouté mes malheureux compagnons. On ouvre la porte de la cellule, on me fait traverser tout le pénitencier, je monte 2 étages. J'entre dans une salle très imposante, je sors sur le balcon. Derrière moi, on ferme les volets, je suis seule devant la foule. Je n'arrivais pas à tenir les yeux ouverts tant il y avait de lumière. Et puis je vis les juges suprêmes. Il y avait au moins 3000 personnes qui me fixaient avidement. Et puis un long sifflement, affreusement vulgaire, ouvrit la salve infâme. La vue de mon visage blafard et décharné provoquait une ineffable jouissance, à en juger par les rires, les provocations, les moqueries. « Ouh, le gentilhomme ! Attention, voilà l'innocent qui nous parle ! Fais-nous rire au moins ! Raconte-nous des histoires ! Et il y a ta vieille maman qui t'attend, pas vrai ? Et tes gosses, ça te ferait tant plaisir de revoir tes mioches ?» Les mains appuyées à la balustrade, je restais impassible. J'aperçus juste au-dessous du balcon une fille qui me parut très belle. Des 2 mains, elle écarta le décolleté généreux de sa robe pour que je puisse bien voir. « Alors, beau gosse, je te plais ? » hurlait-elle. « Ça te dirait bien, hein ?» et de ricaner. Mais moi, j'avais mon plan en tête, le seul qui pouvait encore me sauver. Je ne me laissais pas déconcerter. Je tins bon, je ne réclamais pas le silence. Je ne bougeais pas le petit doigt. Je me rendis compte avec un soulagement indicible que mon attitude les étonnait. Évidemment, les camarades qui m'avaient précédé sur le balcon avaient adopté une autre tactique, peut-être en réagissant, en élevant la voix, en implorant qu'on les écoute, et ils avaient ainsi perdu leur chance. Comme je demeurais immobile et muet, comme une statue, l'ignoble charivari s'apaisa peu à peu. Il y eut encore quelques sifflets, ça et là, isolés, puis le silence. Rien. Je m'imposais un terrible effort sur moi-même et je continuais à me taire. Finalement, une voix presque courtoise et sincère. « Mais parle ! Parle donc ! On t'écoute !» Alors finalement, je me décidai. « Pourquoi devrais-je parler ? » dis-je. « Je suis venu ici parce que c'est mon tour, uniquement pour cela. » Je n'ai pas l'intention de vous émouvoir. Je ne suis pas innocent. Je n'ai nulle envie de revoir ma famille. Je n'ai aucun désir de sortir d'ici. Je vis heureux dans cette prison. » Un murmure indistinct s'éleva et puis un cri isolé. « Allez, ne nous raconte pas d'histoire !»« Je suis plus heureux que vous, dis-je. Je ne peux pas vous révéler comment, mais quand je le veux... J'emprunte un passage secret que personne ne connaît et de ma cellule, je peux aller dans le jardin d'une très belle propriété. Ah, je ne vous révélerai certes pas non plus laquelle, il y en a tellement alentour. Là, on me connaît et on m'aime bien. Et puis là, il y a aussi... Je fis une brève pause, je regardais la foule. Tous ces gens étaient tous désorientés et déçus, comme s'ils voyaient leur proie leur échapper. Il y a aussi... Une merveilleuse jeune femme qui m'aime, dis-je. Ça suffit !» cria quelqu'un exaspéré. Savoir que j'étais heureux devait lui causer une douleur extrême. Laissez-moi donc tranquille, m'écriai-je. Je vous en prie, braves gens, ayez pitié de moi, ne m'enlevez pas d'ici. Sifflez, je vous en prie, sifflez. Un frémissement passa sur la multitude, un souffle de haine envers moi, je le sentis distinctement. Le simple fait de penser que j'avais peut-être dit la vérité, que j'étais vraiment bien content là où j'étais, les angoissait. Mais ils hésitaient encore. Je me penchai sur le parapet, faisant vibrer pathétiquement ma voix. « Ne me dites pas non, vous qui avez bon cœur, m'écriai-je. Qu'est-ce que ça vous coûte ? Allons, mes bons messieurs, sifflez donc ce pauvre prisonnier heureux !» Une voix chargée de méchanceté passa sur la foule. « Ah ! Ah non, hein ! Ça serait trop facile !» Et puis un applaudissement, un autre, 10, 100, un immense applaudissement monta avec une force croissante. Je les avais eus, les salauds. Derrière moi, on ouvrait les volets. « Allez, va, me dit-on, tu es libre. »
Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures, comment voler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas.
Hervé et Catherine vous ont proposé deux nouvelles tirées du livre Le Cas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour deux autres lectures tirées toujours du même livre, Le Cas. À la semaine prochaine.